Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Rediffusion du 27 novembre 2016. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée au premier bâtisseur de l'Église. Deuxième émission intitulée « Les processus d'unification ». Nous sommes en compagnie de Marie-Françoise Basselez, historienne des religions, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne et auteur d'un livre « Les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondance épiscopale, 2e-3e siècle » paru chez Fayard en 2016. Marie-Françoise Basselez, au cours de la première émission, vous aviez évoqué la situation dans ce monde chrétien qui est très, très pluriel, très divers, et le rôle du premier à chaque fois, qui a une charge pastorale importante évidemment, et puis la communication qui se met en place peu à peu. Alors aujourd'hui, nous allons insister davantage sur le processus d'unification de ce monde si diversifié. Une précision peut-être aussi concernant les limites géographiques de ce monde chrétien. Est-ce qu'il correspond plus ou moins aux limites de l'Empire ?
Il va au-delà, puisqu'il y a des églises en Mésopotamie. Et il y a une formule qui apparaît toute intéressante dans les lettres des évêques d'Alexandrie, qui parle des églises d'Orient. C'est les premiers à créer l'expression. Et les églises d'Orient, c'est la Syrie jusqu'à l'Euphrate. Et ils n'ont pas l'expression, les églises d'Orient, et celles qui sont au-delà. Donc, c'est cette région de transition, donc la Mésopotamie, qui est tantôt dans l'Empire, tantôt hors de l'Empire, constitue les limites. Mais leur titulaire, ce sont les églises syriaques, leurs titulaires sont intégrés dans ces réseaux.
Très bien. Alors, maintenant, ce monde...
Peut-être aussi à l'Occident, j'en ai pas dit un mot. Alors, en Occident, sont intégrés les évêques de Gaule et les évêques d'Ibérie et les évêques d'Afrique, qui, eux, sont curieusement, au IIIe siècle, plus polarisés sur l'évêque de Carthage, étant donné la personnalité de Cyprien, que sur l'évêque de Rome.
Est-ce que on voit déjà à cette époque-là, c'est ce qui sait ce qui va devenir après l'organisation, la clé de l'organisation, c'est-à-dire ce système de pentarchie dont on parle beaucoup et qui s'officialise à partir du 5e siècle.
Les cinq grands sièges épiscopaux majeurs.
Oui, tout à fait. Est-ce que on peut déjà à cette époque-là voir l'annonce de ça, ou c'est quelque chose de beaucoup...
Déjà, il n'y a pas Constantinople, puisque moi je m'arrête en 313, donc il n'y a pas Constantinople. Oui, on voit l'émergence d'Alexandrie, d'Antioche, de Rome et de Carthage.
Donc l'organisation que nous connaissons après n'est pas vraiment établie. Il y a les grands centres qui sont les grands centres.
Mais j'ai parlé de tropisme, parce que ce sont des rayonnements qui dépendent beaucoup de leur titulaire. À une époque donnée. C'est peut-être que c'est à Rome et Alexandrie que les évêques, les uns après les autres, ont construit vraiment une préséance, qui n'est pas encore une prééminence, mais qui est au moins une préséance. Mais par exemple, le rayonnement de Carthage est très lié à la personnalité de Cyprien. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que l'unité de l'Église, l'Église au singulier, n'est pas du tout une évidence aux trois premiers siècles. Et ce qui est une évidence, c'est des communautés assez repliées sur elles-mêmes, des communautés résiduelles. Il y a plein de communautés sans histoire qui ont vécu repliées sur elles-mêmes pendant des siècles. C'est ce que montrent en définitive les inscriptions d'Asie Mineure au début de l'époque constantinienne, au IVe siècle. On voit encore des communautés charismatiques, dirigées parfois par des femmes, c'est quand même quelque chose d'assez atypique, vous avouerez, qui subsistent encore. Et sans on n'aurait pas ces inscriptions, elles seraient sans contact. Donc, il y a eu des communautés résiduelles et je dirais une tendance aux dérives sectaires permanentes, dont Paul le Premier, puis ensuite les évêques ont été très conscients. Donc, l'unité n'est pas du tout une évidence. Parce qu'il marchait, donc il y a des circonstances, d'où quand je parle de questions d'autorité, il y a des circonstances qui ont poussé à ces dérives sectaires. La première, c'est que l'évêque et président de communauté est élu. Et que quand l'élection ne fait pas l'unanimité, émerge immédiatement un contre-évêque. Alors, on peut hésiter sur la terminologie. Je pense que celle qu'on utilise actuellement, qui n'a pas d'équivalent antique, contre-évêque est la plus juste. C'est-à-dire, le groupe ne s'en connaît pas dans l'évêque qui est élu et se cherche à d'autres chefs. Et ça crée une mini-dissidence. Ça nous montre donc que le principe énoncé par Ignace d'Antioche au début du IIe siècle, un évêque par église locale, n'est pas du tout vécu ni considéré comme incontournable jusqu'à la fin du IIIe siècle, où Cyprien va au contraire le réaffirmer par force, avec force, et aussi Corneille de Rome, qui est évêque en 250 et qui s'est vu contester dès son élection, ce qui a donné lieu donc à la dissidence menée, qui s'est trouvée à contre-évêque, Novatien, et Corneille et Cyprien réitèrent, mais le principe d'Ignace, un seul évêque par église locale, un seul chef à une église, c'est l'épiscopat monarchique, mais c'est pas du tout une évidence pour les communautés en général au deuxième, troisième siècle. Donc là, il y a une conjoncture de désunion, de dérives sectaires, et l'autre cause, ce sont les persécutions. Les persécutions n'ont pas rassemblé les chrétiens, mais les ont fait éclater. On se rend compte maintenant, donc en groupe, qui prenaient des choix différents sur la conduite à tenir, qui se trouvaient chacun son chef, donc contre-évêques, les contre-évêques se sont multipliés. Il y a eu un moment à Carthage, sous la persécution de Dèce, où il y a eu 6 évêques à Carthage. Donc, c'était une autre cause d'éclatement. Et on se rend compte maintenant que les lapsis, ceux qui avaient plus ou moins cédé et fait des compromis avec ce que demandait l'État, ont été les chrétiens majoritaires, c'est incontestable. Donc ça crée encore une troisième cause de divergence et d'éclatement, la réintégration des lapsis. Entre la majorité des évêques en place qui voulaient les réintégrer et ceux qui ne voulaient pas et qui ont créé donc des contre-églises avec des contre-évêques au nom significatif. Par exemple, l'église des purs menée par Novatien. Donc l'unité n'est pas du tout affiche. Je sais même pas si on s'en sent besoin en fait. Et le travail des évêques, des grands évêques du IIIe siècle, a été justement d'imposer la marche vers l'unification et le principe d'unité de l'Église qu'il fallait passer. C'était le moment de passer des églises locales, des églises individualisées, des églises spécifiques à l'Église, la grande Église ou les.
Alors on va peut-être juste s'arrêter à quelques, pas des grands noms, mais comment dire, des évêques qui ont marqué vraiment leur époque et justement l'évolution dans l'Église. Est-ce qu'il y a des noms, des personnalités qui ont vraiment marqué de leur présence, de leur politique menée, de leur pastorale, cette évolution?
Alors, la figure exemplaire de l'évêque, c'est Polycarpe de Smyrne. Donc, qui est évêque dans la première moitié du IIe siècle et qui subit le martyr, sans doute en 155. Donc, c'est le bon évêque, parce que c'est un trait d'union permanent. Il va à Rome, il crée un trait d'union entre les églises d'Asie et l'église romaine sur un problème controversé dont on n'a pas parlé, mais qui nous paraît un peu dépassé maintenant, le calendrier de Pâques, à quelle date et avec qui fêter Pâques, calendrier juif, calendrier romain. Donc c'est un trait d'union. C'est un pastoral qui fait des lettres de direction pastorale, j'ai cité celle aux Philippiens. Et c'est quelqu'un donc qui a fait primer la pastorale sur le témoignage du martyr, puisqu'il a échappé au martyr aussi longtemps qu'il l'a pu. Donc c'est le bon évêque, celui qui travaille toujours dans un souci pastoral et d'unification. Alors ensuite, dans les grandes figures conservées par la mémoire chrétienne, il y a quelqu'un d'assez peu connu, en général, c'est Denis de Corinthe, qui est évêque à la fin du IIe siècle, dans les années 180, et dont on retient l'idée qu'il travaille à l'unité à toutes les échelles, si vous voulez. Ses lettres ont été présentées en dossier, allant donc de la lettre catholique, on dirait aujourd'hui une encyclique, c'est-à-dire d'une lettre d'intérêt général. Donc il conçoit, un des premiers à concevoir fortement l'Église universelle, qui a des problèmes doctrinaux ou disciplinaires qui sont d'ordre universel et qui doit être géré donc à l'échelle de l'Église universelle et pas à l'échelle de l'Église locale. Il y a des lettres, lui aussi, sert d'intermédiaire dans des traits d'union, dans des conflits entre des évêques et leurs fidèles ou leurs clergés, ou entre des évêques entre eux. Il se met en position d'arbitre. Et enfin, il pratique même la lettre de direction de conscience. Donc, c'est aussi la diversité donc de l'action pastorale. Donc, c'est une figure dont on a voulu se souvenir, même si pour nous, il est à peu près inconnu. Ensuite, encore une fois, les persécutions ont fait émerger les grandes personnalités et donc trois figures épiscopales majeures au moment des grandes persécutions du milieu du IIIe siècle, Corneille de Rome, Cyprien de Carthage et Denis d'Alexandrie. Et des trois, c'est évidemment donc la figure de Cyprien de Carthage qui émerge encore davantage. D'une part, celui qui maîtrise parfaitement la question de la communication, allant jusqu'à faire éditer ses propres lettres. Celui qui pense de façon théologique et ecclésiologique, la question de l'unité de l'Église. Des gens comme Denis de Corinthe, par exemple, la pensée au coup par coup de leur correspondance, travaillait à l'unification. Mais Cyprien la pense comme un concept. Il est l'auteur, vous le savez bien, du premier traité sur l'unité de l'Église. Et enfin, donc, également celui qui a pondéré la charge pastorale et la valeur donc du témoignage donné par le martyr, puisqu'il est mort victime donc de la persécution de Valérien en 259. Il est aussi celui qui, c'est assez fascinant la personnalité de Cyprien, c'est celui donc qui a aussi construit l'Église. Entre l'Église universelle et l'Église locale, la communauté d'un lieu, donc, celui qui pense l'Église provinciale ou l'Église nationale, c'est-à-dire, il pense l'Église de Carthage, il pense l'Église d'Afrique, plus exactement, et il pense à l'unifier, son travail de communication vise à cela, et en même temps, son contemporain, Denis d'Alexandrie, lui aussi perçoit et conçoit l'Église des Égyptiens. Il ne parle pas de l'Église d'Égypte, l'Église des Égyptiens. Et travaille dans sa communication, sa pastorale, à l'unifier. Donc on voit apparaître une nouvelle échelle d'Église qui correspond à peu près aux provinces romaines, et qui va expliquer aussi ce que vous évoquiez la semaine dernière, la question des patriarchies, de l'émergence donc de sièges métropolitains. Ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience de l'unité provinciale ou nationale de certaines églises, et ça c'est une des choses auxquelles ont beaucoup travaillé Cyprien de Carthage et Denis d'Alexandrie.
Et un mot peut-être sur Irénée de Lyon.
Alors Irénée de Lyon, on le connaît comme père de l'Église, comme ecclésiologue. Il donne peu de témoignages sur son activité d'évêque. Il nous donne témoignages sur l'activité épiscopale de Polycarpe, qui a été son maître spirituel et qu'il admire beaucoup. Très peu, pratiquement pas sur sa pratique personnelle.
Et un grand père de l'Église, pourtant, qui a...
Et oui, mais ce qui étonne aussi, comme l'avait souligné le colloque sur Irénée il y a 2 ans, on voit que les évêques qui ont marqué, comme Polycarpe par exemple, leur nom est donné au IIIe siècle à d'autres chrétiens. Le nom d'Irénée n'a pas cette postérité.
C'est venu après.
Elle est plus intellectuelle, je dirais, plus intellectuelle que pastorale, sa fille.
On fait une pause maintenant pour entendre un Alléluia tiré de la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, interprété par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos.
Amen.
Et c'est l'Alléluia tiré de la liturgie de Saint Jean Chrysostome par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos. Nous revenons à notre entretien avec Marie-Françoise Basselez sur son livre paru « Les premiers bâtisseurs de l'Église », deuxième émission aujourd'hui, « Les processus d'unification ». Alors Marie-Françoise Basselez, on parle de processus d'unification, il y a une institution qui va peu à peu s'imposer dans la vie de l'Église, celle du synode.
Je dirais que pour revenir à cette question, que c'est pas une, l'unité de l'Église au singulier n'est pas du tout réalisée, que c'est un processus d'unification, comme vous le dites très bien, et que cette unification repose donc sur l'agrégation, faire s'agréger ensemble autour de la même idée le maximum de communautés et de chefs de communautés. Si bien qu'on est passé très spontanément de la communication épistolaire à la pratique synodale. Synode et concile étant à cette époque-là exactement la même chose. Concile en latin, synode en grec. Mais il n'y a pas de différence de hiérarchie comme il y a maintenant, par exemple, dans l'Église catholique, et d'importance entre les deux types de conférences épiscopales, je dirais. C'est d'ailleurs le terme que j'utilise dans mon livre. Donc on est passé directement de l'échange des lettres à la réunion des personnes. À partir du moment, pourtant en pleine époque de persécution, où en raison de la familiarité et des itinéraires de circulation assez bien balisés qu'avait fourni donc la communication épiscopale. Et c'est en Asie mineure qu'est née la pratique synodale dans des coins reculés de Phrygie, comme le rappelle donc un évêque de Cappadoce, donc sur le plateau anatolien, à Cyprien de Carthage. Il rappelle donc que cette pratique du synode, elle est donc de la conférence épiscopale, de la réunion d'évêques, Elle est née dans cette région. Il y a longtemps déjà que nous, à Iconion, une fondation de Paul, et à Synada, localité de Phrygie, donc en Asie mineure, réunis en un seul lieu, venant de Galatie, de Cilicie et d'autres régions proches, nous avons confirmé qu'il fallait tenir fermement contre les dissidents et l'emporter alors que certains en doutaient. Donc on voit contre cette dérive sectaire qui est permanente dans les communautés de cette époque, donc c'est l'autorité collégiale de plusieurs évêques réunis en conférence épiscopale qui apparaît comme la seule réponse et le seul fondement possible de l'unité. L'autorité d'un seul évêque n'y suffit pas. Et donc ces réunions au début, elles sont très restreintes, régions proches, hein, c'est précisé, c'est à l'échelle provinciale, et nous avons quelquefois des lettres, il n'y a pas encore de canon de concile ou de canon de synode, hein, cette date, ce sont des lettres synodales, et maintenant la conférence épiscopale qui circule comme les autres. Et souvent, il y a très peu de signatures, c'est de l'ordre d'une dizaine de signatures, 10, 20 signatures. Donc, c'est Cyprien de Carthage qui va donner toute son ampleur à la pratique synodale, à deux niveaux. D'une part, pour structurer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église d'Afrique. Et il va créer donc la pratique de la conférence épiscopale annuelle, de la réunion annuelle et même quelquefois bisannuelle, deux fois par an, des évêques d'Afrique. Donc ça devient un fonctionnement de l'Église locale, autour donc du siège métropolitain, qui ne porte pas encore ce nom, du siège épiscopal majeur. Et puis ensuite, donc, pour ce grave problème d'élapsie, donc de la réintégration de ceux qui avaient failli, plus ou moins failli devant l'épreuve des persécutions, on va, et qui est posé donc un problème majeur, parce qu'ils étaient, les évêques faisaient des choix différents, réintégrer immédiatement dans la moyenne ou la longue durée, rejeter complètement, et les choix divergents des évêques étaient soutenus par des parties plus ou moins importantes des églises et des communautés. Il y avait donc un éclatement des communautés. Donc là encore, la pratique synodale, dans les années 250 et la deuxième moitié du IIIe siècle, est apparue comme nécessaire pour régler donc cette grave discussion. Et par exemple, l'évêque de Rome, Corneille, a réuni ce qu'il a appelé, ce que la lettre synodale appelle un très grand synode. Là, on a 90 évêques, donc, pour régler et poser le principe, régler cette question des lapsis et poser le principe de leur réintégration. Donc, l'Église est perçue, l'unité de l'Église est perçue à cette date, en termes de synode, c'est-à-dire de la réunion et non pas d'une unité établie, d'une réunion. Et dans cette réunion, donc, la décision est prise par la majorité, en fonction de la majorité. La décision synodale, qu'elle soit doctrinale ou disciplinaire, est prise à la majorité des évêques présents et elle est diffusée. Elle a vocation ensuite à devenir universelle, mais là, on revient à la question de la communication épistolaire, le synode ou le concile. Puisqu'en Afrique, il s'agit de latinophone, il s'agit de concile, fournit une lettre synodale qui va circuler donc le plus loin possible de proche en proche. On l'envoie à des évêques à la tête de réseaux importants qui la renvoient à d'autres réseaux, etc.
Est-ce que nous connaissons la réception de ces synodes ou conciles auprès des évêques qui n'ont pas participé? Est-ce que vraiment cette autorité est reconnue déjà dans le monde chrétien?
Non. Ça, on le dit très bien, tout dépend de la diffusion. Et donc, on sent simplement, quand Cyprien tient, ou quand Corneille de Rome tient un concile auquel il donne une portée catholique, pour une décision qui est de portée catholique, ils choisissent leur relais. On sent qu'ils choisissent leur relais, puis ils envoient leur relais une lettre un peu incitative. Attention, c'est très important, mais on n'a pas de refus. Et par exemple, pour le problème des lapsies, on ne peut pas déterminer quelle église réintégrer et à quelle vitesse, non. On est encore dans le cadre, l'unité de l'église s'affirme à travers une décision collégiale, mais ensuite dans l'application, tout relève de l'autorité personnelle des évêques.
Merci beaucoup Marie-Françoise Basselès. Donc, les premiers bâtisseurs de l'église, correspondance épiscopale, 2e et 3e siècle, paru chez Fayard en 2016. C'est passionnant parce qu'on voit justement les communautés chrétiennes
sur le vif,
les églises sur le vif, terrain. Qui peu à peu deviennent l'église.
L'église, oui.
C'est absolument fascinant et des choses qui nous échappent aujourd'hui puisque nous sommes habitués à des structures beaucoup plus stables et fixes. Un grand merci. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Laetitia Coya. Prise de son, Claire Levasseur. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Voici maintenant le service protestant.